Les rencontres de Marie-Claude.
Moi, je m'appelle Philippe Rébellet, moi je suis psychiatre, psychothérapeute. Actuellement, je suis directeur de la Fondation NON, donc qui est l'institution psychiatrique voisine de Malévaux. Et puis, j'avais eu l'occasion de travailler aussi il y a quelques années à Malévaux pendant 5 ans à peu près.
On va aussi en parler de votre parcours. Comment est-ce que vous avez connu Malévaux ?
Moi, j'y suis quasiment né. Enfin, pas tout à fait, c'est pas vrai. Je devrais dire, moi, je suis presque né à Bel Air à l'époque, dans l'autre hôpital psychiatrique à l'autre bout du lac, puisque mon père y travaillait à l'époque. Et puis ensuite, lorsque j'avais, je crois, 6 mois, 1 année, il était venu comme directeur de Malévaux. Alors c'est pour ça que je dis que je suis quasiment né à l'hôpital psychiatrique, parce que pour moi, c'était des souvenirs d'enfance. Les premiers souvenirs que j'ai, moi, de Malévaux, c'était la kermesse de Malévaux. Parce que c'était un endroit de fête pour moi, Malévaux. Dans ma représentation comme enfant, parce qu'on, alors on y allait, pas souvent, mais enfin on y allait de temps en temps pour voir mon père. Moi j'ai des souvenirs comme ça, dans mes souvenirs d'enfance, ça m'avait frappé ça quand j'étais revenu travailler à Malévaux, parce que du coup je m'étais retrouvé quand je travaillais à Malévaux dans le même bureau où avait été mon père. Puis, alors j'avais le souvenir d'un immense bureau, et puis en fait, comme souvent quand on y revient après, il était moins grand que ça. c'était un des souvenirs comme ça que j'avais, mais surtout les premiers souvenirs, moi, c'était vraiment les kermesses de Malévaux, cet espace de fête où toute la ville venait, ça grouillait de monde, c'était des semaines, voire des mois de préparation avant les kermesses. J'ai le souvenir des courses de caisse à savon qu'on faisait dans les chemins de Malévaux. Moi, c'était ça mes premiers souvenirs, c'était un endroit de fête dans la ville, hein.
Ça, c'est assez extraordinaire de parler des kermesses de Malévaux. C'était organisé par Malévaux, par l'hôpital ?
Oui, c'était organisé par l'hôpital. Alors, c'était un autre temps, parce que c'était un moment où les hospitalisations psychiatriques étaient aussi beaucoup plus longues. Elles étaient en semaines, en mois. Vers la fin des années 60, je crois qu'il y avait encore à peu près 400 lits à Malévaux. Puis ensuite, il y a eu tout ce courant psychiatrique de retour vers la ville, vers la cité, qui avait beaucoup changé les choses à cette époque-là. Et ce qui avait fait aussi que l'hôpital s'était après un peu déshabité, parce que c'était une époque où les gens restaient des mois, parfois même des années ou à vie. Et donc, il y avait aussi le souci qu'il y ait toute une vie dans l'hôpital. Malévaux avait été conçu d'ailleurs à peu près comme l'avait été Bel Air à l'époque, qui avait été conçu sur l'idée de l'hôpital village, l'hôpital pavillonnaire, où il y avait de la vie, où on circulait, où il y avait beaucoup de vie. Et ces kermesses, elles se préparaient chaque année. C'était, il me semble, c'était à l'automne, comme ça, vers la fin de l'été. Et ça impliquait alors beaucoup de travail de la part des soignants, des patients qui participaient, qui préparaient les stands, des animations. C'était sur un week-end, comme ça, la kermesse. Et c'est intéressant parce que, dans le fond, c'était quelque chose, on pourrait dire, qui était le précurseur de l'actuel quartier culturel. Alors, c'est un autre temps, parce que, probablement, qu'on ne fait plus les kermesses comme on les faisait dans les années 60-70. Ça s'était arrêté, je crois, fin des années 80 ou quelque chose comme ça, à peu près, les kermesses. Mais c'était déjà là, pour moi, les précurseurs de l'idée qu'il y a maintenant dans ce quartier socioculturel, qui est une petite perle, mieux d'un hôpital, parce que ça insuffle de la vie, ça insuffle un peu de folie à l'hôpital. Et je pense que c'est important de pouvoir faire ça et de maintenir ça dans des sociétés qui sont de plus en plus normées, contrôlantes, par moments rigides, qui sont pas très propices à la bonne santé mentale d'ailleurs, mais ça c'est une autre chose, ça touche pas Malévaux. Mais ça reste un peu dans cette tradition-là, alors c'est vrai que les premiers souvenirs de Malévaux, c'est ça. Et ça reste encore des souvenirs d'enfance comme ça, assez joyeux.
Effectivement, ça devait être quelque chose, ces kermesses et ces courses à savon.
Ah oui, oui, c'était des moments de joie, parce qu'il y avait toute la préparation des caisses à savon. C'était aussi toute une partie qu'on préparait soigneusement durant l'été pour être le plus performant, parce que bien sûr, à l'époque, on voulait gagner. Maintenant aussi, d'ailleurs. Donc c'était ces souvenirs-là, puis c'était la fête, c'était un grand mélange. Il y avait un peu cette notion-là d'une ville en fête.
Oui, c'est ça, c'est aussi ma question, ma réflexion en vous écoutant, c'est qu'il y a l'hôpital, il y a les structures de l'hôpital, puis il y a la ville, et puis tout le monde participe.
Oui, Parce que c'était aussi ce qui, à l'époque, avait présidé à beaucoup de changements de l'hôpital. Hein, l'ouverture des portes à Malévaux, hein, de dire on va plus avoir recours à l'enfermement, qui était quelque chose, alors qui était assez dans l'air du temps à cette époque-là, ça avait été acté en 67. Un peu plus tard pour la personne âgée, de par la nature des problèmes rencontrés, mais dès 67, ça avait été ça. Et c'était vraiment cette idée autour de la communauté thérapeutique qui avait été mise là-dedans. Et la communauté thérapeutique, elle implique justement de réinsuffler de la vie, qu'il n'y ait pas de scission. Hein, on sort là d'un hôpital psychiatrique qui serait une hétérotopie à la Foucault, hein, l'endroit où on met tout ce qui dérange dans une société. Il y avait vraiment la volonté de contrer ça et que ce soit la vie, quelque part la vie, la relation qui soigne. Et ce moment-là d'ouverture des portes avait été pour moi très symbolique. Là-dessus, ça ne s'est pas fait sans heurts. Hein. Parce que moi, j'ai aussi les souvenirs de mon père qui rentrait en pestant contre les articles du Nouvelliste, qui critiquait l'ouverture des hôpitaux, etc., de Malévaux, de tout l'apprivoisement qu'il avait dû avoir avec la ville de Montaigne. Parce que si maintenant, le fait que ce soit un hôpital ouvert, ou que les rapports avec la ville sont très apaisés, c'était pas forcément le cas à la fin des années 60 et dans les années 70. Hein, c'était beaucoup plus chaud. Hein, dès qu'il y avait un fait divers à Montaigne, c'était forcément parce que Malévaux était ouvert. Donc il y avait aussi beaucoup de critiques, des craintes usuelles qu'on connaît par rapport à cette image de l'hôpital psychiatrique ou des troubles psychiques. Donc il y a vraiment toute une évolution au fil du temps qui a été assez remarquable, je dois dire, à Montaigne pour ça.
C'est vrai parce que Malévaux est la fierté de Montaigne maintenant, mais on peut bien comprendre parce qu'il y a quand même cette notion de peur qui est un peu présente face à un hôpital psychiatrique.
Ben ça, je pense que ça rejoint pour moi la crainte de chacun de nous. Nos craintes intimes par rapport à la folie, de perdre la raison, qui est probablement une des plus grandes angoisses de l'être humain. Moi, je me suis souvent dit qu'il n'y avait pas de plus grande souffrance que les troubles psychiques. Je pense que c'est la cohérence du monde qui nous échappe. Et là, ça nous plonge dans des choses cauchemardesques. Donc, c'est assez compréhensible que ça fasse peur. Je pense que ça restera toujours. Ça, c'est quelque chose qui est lié à l'être humain. Mais il y a eu effectivement un apprivoisement. Et puis, c'est quand même ce qui est remarquable, c'est ce que vous disiez là. C'est-à-dire que maintenant, Malévaux, c'est la fierté de la ville de Montaigne. Ça l'était moins dans les années 70. Là, il y a eu une sacrée évolution. Probablement que le quartier culturel actuel y concourt aussi beaucoup. Cette vision comme ça, très déstigmatisante des soins psychiatriques.
C'est grâce à votre papa que l'hôpital s'est ouvert ?
Oui, oui. Alors c'était lui qui était vraiment un fervent partisan de l'ouverture et qui avait décrété l'ouverture. Je dis bien décrété. Là, il n'avait pas été très démocratique. Il a imposé cette ouverture. Mais je pense que... Enfin, d'expérience, parce que moi, ça fait aussi bientôt, maintenant, plus de 3 décennies que je traîne mes guêtres dans des institutions psychiatriques comme psychiatre. Et... je pense qu'il y a des moments où effectivement cette ouverture, on doit la faire sous contrainte, sinon c'est très compliqué, très très compliqué, parce que il y a toujours cette crainte de la folie qui fait que les choses ont tendance à se refermer derrière soi. Enfin moi ça me rappelle des anecdotes aussi que lui me racontait aussi, ou dont on a reparlé après, alors bien plus tard, quand il était à la retraite, et puis moi je travaillais là déjà dans les hôpitaux psychiatriques, parce que ça s'est pas fait d'un seul coup. Le directeur il peut bien dire une chose pour que ça suive derrière. Maintenant, avec aussi là, quelques, déjà 2 décennies de position dirigeante comme ça dans les hôpitaux, je peux vous confirmer que c'est vrai. Entre ce qu'on dit, puis après ce qui se réalise sur le terrain, il y a un delta parfois assez grand. Et j'ai souvenir où il me racontait, dans le fond, comment lui, sciemment, il oubliait tout le temps ses clés quand il allait dans les unités. Ben, comme ça, il pouvait voir si c'était ouvert ou fermé. C'était pas toujours ouvert. Entre le discours qu'on tient maintenant, je peux imaginer que dans les premières années, il y a eu beaucoup de mouvements aussi contraires qui tendaient à refermer les choses.
Donc on peut imaginer une sacrée force de caractère aussi pour maintenir cette idée d'ouvrir l'hôpital psychiatrique.
Ah oui, je pense que là, il ne faut pas y aller de main morte. Pour moi, la psychiatrie, elle doit... toujours maintenir un côté, je dirais, contre la bienséance. Ça doit être une dimension aussi militante. C'est une des choses qu'on a peut-être oubliées de nos jours. D'ailleurs, toute cette espèce d'habillage médical, scientifique qu'on peut donner à la pratique psychiatrique, et qui est, à certains égards, une très bonne chose, mais c'est quand même une discipline qui doit avoir aussi d'autres bases, des bases profondément humanistes. Je me réfère souvent à un des grands psychiatres français qui s'appelait le professeur Henriet, qui évoquait la psychiatrie comme la médecine de la liberté. Ce que je trouvais une très jolie formulation, alors il le justifiait par le fait que tous les troubles psychiques, et ça on peut le faire expérience sur nous-mêmes, dès le moment où on va moins bien, on va perdre un peu de notre degré de liberté. Quels que soient les troubles, hein, que ce soit une dépression, que ce soit un trouble schizophrénique, que ce soit un grave trouble anxieux, ben, on est contraint par des choses de l'intérieur qui nous restreignent dans notre liberté. Et de pouvoir penser la psychiatrie comme ça, moi je trouve ça fondamental, parce que ça veut dire que nous on travaille pour restaurer la liberté des gens. Et c'est aussi tous ces paradoxes aussi par moment par rapport à la contrainte, parce que ça a été quand même quelque chose où Malevo a été vraiment un des fers de lance, je dirais en Europe, hein, de cette ouverture. C'est-à-dire que on utilise parfois la contrainte pour restaurer la liberté. Donc il faut garder cette finalité et puis d'être le plus ouvert possible. On doit tout le temps manier ces paradoxes. Donc je pense qu'effectivement, pour changer ça, il faut se lever de bonne heure, il faut tenir le coup, puis il faut tenir le coup sur des années. Et des années, parce que c'est jamais acquis. Hein. Enfin, c'est quand même ce que l'expérience nous a montré. Il faut des années pour construire des choses, puis en 6 mois, ça peut être balayé.
Oui, et puis il faut aussi des adhérents à cette notion de liberté, à cette notion d'ouverture. C'est bien d'avoir une idée, mais il faut pouvoir la concrétiser, c'est une chose. Et puis après, il faut que les gens à côté adhèrent aussi à cette idée.
Alors c'est pour ça que je vous disais, moi je pense qu'il y a un côté, alors qu'on n'enseigne pas dans nos manuels de psychiatrie, mais peut-être à tort, je pense qu'on doit être aussi des militants en psychiatrie. Et je pense qu'il faut effectivement pouvoir se baser sur un cadre de valeurs et qu'on va pas, on doit pas se laisser embarquer dans une psychiatrie qui risquerait fort de devenir, si on n'est pas attentif, un instrument de contrôle social ou dans des velléités normatives. Non, nous on doit être là pour travailler à ce que les gens soient le plus libres possible et souffrent moins possible. Et pour ça, je pense qu'il y a cette dimension du militantisme. C'est ce qui s'était fait d'ailleurs dans les années, à partir des années 60. Il y avait eu tous ces courants aussi antipsychiatriques qui avaient amené beaucoup de bonnes choses, dans le fond, avec une critique d'une vision asilaire normative. Eh bien, ça avait amené plein de choses, mais qui étaient aussi basées sur une critique sociétale, qui était imprégnée d'idéaux politiques, alors on dirait de gauche maintenant, en disant de gauche comme ça me semble absurde, c'était juste humaniste, hein. Enfin, je dis de gauche maintenant, parce que dès le moment où on est un peu humaniste, on a l'impression d'être un horrible gauchiste, rétrograde, alors qu'on voit, ben, c'est probablement des choses qui risquent aussi, là, qui pourraient mettre hein, ces mouvements sociétaux qu'on observe en grand péril la psychiatrie hein, dans cette velléité très normative où au fond, on défend plus que le pognon, plus d'idéaux humains. Hein.
C'est quelque chose que vous ressentez actuellement ?
Oh, terriblement. Je pense qu'il y a aussi des particularités de la psychiatrie ou des hôpitaux psychiatriques. C'est quand même un peu des miroirs grossissants de tous les travers sociétaux. Et si on a eu des, on pourrait dire dans les dernières décennies du siècle dernier, des moments d'ouverture, des moments d'espoir, mais où on défendait des social-démocraties, on défendait des valeurs humanistes, et on a vu cette dérive avec le capitalisme financier, moi je dirais depuis les années 80, on le voyait venir, où dans le fond c'est l'économie, c'est le profit qui a supplanté les valeurs qui ont été les valeurs fondatrices de nos sociétés démocratiques contemporaines. Et je pense que là on les a dévoyées, et puis là on arrive à un point culminant avec enfin, des gens qui sont d'une absolue vulgarité, d'une violence terrible, et qui sont nos dirigeants. Et je pense que ce courant sociétal qu'on voit maintenant, ben, il va falloir batailler pour ça, parce que sinon on va se retrouver avec de nouveau des gens mis à l'écart, on va laisser tomber, ben, c'est ce qu'on voit, hein, on laisse tomber les idées d'aide humanitaire, d'humanisme, au nom du seul profit. Donc oui, je pense qu'on est dans des... Les choses sont jamais acquises hein, dans la vie, hein.
Non, et il y a le risque d'un éternel recommencement aussi. Revenons à la période de Malevo. Votre papa est directeur de Malevo. Vous passez une grande partie de votre enfance à jouer à Malevo. Et vous suivez un peu la voie de votre papa aussi ?
Mais je me suis souvent dit que j'avais un enfant jamais résolu mon complexe d'Œdipe, hein, pour reprendre des termes analytiques, comme ça, vu que j'ai une formation analytique. J'avais pas pensé jusqu'à 20 ans faire de la médecine, c'est venu comme ça, sur une impulsion, comme ça, probablement une assez bonne impulsion, parce que je ferais aucun autre métier au monde, même si je devais recommencer. Et puis j'avais commencé par faire de la médecine interne. Et puis au bout d'un moment, je m'ennuyais un peu avec des choses qui étaient trop techniques, où il manquait cette dimension d'échange humain. Et dans le fond, c'est après quelques années de formation médecine interne que j'ai viré ma cutie. Et puis, je suis revenu, j'ai suivi les traces du paternel, comme on dit en Valais ou ailleurs aussi.
Avec quel apport de votre papa ?
J'ai eu la chance d'avoir un père dont je peux en très grande partie partager les valeurs, qui était quelqu'un de profondément bienveillant. Pour moi, c'est vraiment une fierté de suivre cette trace. Ça peut sembler comme si j'avais un peu repris la boutique familiale sans me poser de questions. C'était plus complexe que ça, parce que ça a été aussi tout un cheminement personnel. Et puis, je me suis souvent dit que c'était parfois compliqué de refaire la même chose que son père, mais de le faire librement. Mais, en fond, quand on a un bon exemple, pourquoi s'en priver, hein ? Il y a des choses qu'on peut imiter dans l'existence.
C'est vrai. Quel regard portez-vous sur Malevo ?
J'allais dire beaucoup de tendresse, hein, et peut-être particulièrement avec l'actualité présente, hein, des critiques qu'il peut y avoir et que je peux bien comprendre, hein, avec des équipes soignantes qui sont mises à mal par des non-décisions, par un attentisme de la direction de l'hôpital, par des choses qui mettent patients et soignants en grande difficulté. Donc en ce moment, je dirais, c'est un mélange de grande tendresse et de grande tristesse, je dois dire. Hein, et dans ce sens-là, ce qui me rassure, c'est qu'il y a encore des zones de vie. Ben, Pavillon Nomade en est une, par exemple, hein, le quartier socio-culturel. Et puis on sait aussi que toutes les institutions psychiatriques traversent des périodes de crise. Hein, ben, je travaille à la Fondation Nantes, c'est le service public de l'Est Vaudois. Ben, c'était aussi une grande période de crise il y a quelques années, avec beaucoup de critiques. Les hôpitaux sont forcément critiqué, mais en même temps, moi, c'est plus, je dirais, le terme de tendresse qui me viendrait à l'esprit par rapport à Malevo, parce que je pense qu'un hôpital qui a su rester ouvert depuis maintenant plus d'un demi-siècle, c'est vraiment quelque chose d'absolument remarquable et qui est, j'allais dire, une preuve de civilisation. Après, il y a tout ce qui s'y passe. Ça ne veut pas dire que c'est rose, ça ne veut pas dire que parce que les portes sont ouvertes que tout se passe bien. C'est deux choses différentes. Mais si les choses peuvent se passer bien avec des portes ouvertes plus que fermées, alors ça donne l'espoir en l'humanité.
Ce qui frappe quand on arrive à Malevo, quand on se promène dans le parc, c'est de voir la jeunesse des patients qui sont à Malevo. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a frappé la première fois que je suis allée à Malevo.
Oui, parce que c'est quelque chose qu'on connaît bien, hein, en psychiatrie. C'est souvent dans ces périodes de transition de vie, hein, beaucoup des troubles psychiques, on les voit émerger au moment de cette transition adolescence âge adulte, hein, qui sont des périodes de remaniement complexes sur le plan psychologique. C'est le moment où on se construit son identité adulte, c'est le moment où on est le plus sous pression. Et effectivement, ça touche des populations jeunes et probablement, et ça on le voit maintenant après la période de pandémie qui a quand même beaucoup affecté les adolescents, on voit une augmentation faramineuse des demandes de jeunes, soit des enfants, adolescents, jeunes adultes qui probablement ont été mis à mal dans ce moment de transition, un moment où ils doivent prendre leur envol, où ils doivent s'éloigner du milieu familial, hein, c'est ce qu'on fait tous si les choses se passent bien. Ben, là, il y a eu pendant 2 ans, la consigne, c'était non, restez chez vous. Donc, c'est quelque chose qui a coupé le lien social et qui a créé passablement de difficultés. C'est vraiment ça, un des facteurs. Puis, mis à part ça, je pense qu'il faut tenir compte aussi du facteur sociétal. Le monde actuel, il ne fait pas tellement rêver. Hein. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, à mon sens, sont moins privilégiés qu'on a pu l'être il y a quelques décennies. Et ça, ça a inévitablement un impact sur les troubles psychiques ou sur la souffrance humaine.
Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que vous n'êtes pas le seul à le dire, beaucoup de soignants le disent, effectivement la période du Covid, de la pandémie, a cassé quelque chose, notamment auprès de cette génération.
Oui, ce qui avait été frappant pour moi au début de la pandémie, c'est parce que c'était presque comme si on avait réintroduit dans nos sociétés comme ça, qui sont un peu dans cette espèce de paradigme de croissance continue où il y a une espèce d'omnipotence totale, hein, où on avait chassé la mort quasiment de nos sociétés. Et c'est comme si on avait redécouvert au moment de la pandémie qu'on était mortel. Hein. Et je pense effectivement que ça a cassé un élan, et probablement particulièrement pour des enfants, des adolescents, qui étaient justement dans ce moment où on doit sortir du milieu familial, où on doit s'ouvrir au monde. Et ça, ça a mis un coup de frein, et puis ça a peut-être mis aussi en lumière l'absurdité de nos sociétés contemporaines avec cette folie d'une croissance continue. Pour moi, cette croissance continue, si vous voulez, enfin, je le dis parce que je pense que c'est très malsain en termes psychiques d'être dans quelque chose comme ça, du plus, 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 parce qu'on est tout le temps dans une insatisfaction. Ce qui procure du plaisir dans l'existence, c'est toute cette subtile mécanique du désir où on a besoin d'attendre, de s'imaginer ce qu'on va avoir. C'est pas le moment moment où on va posséder une chose qu'on a le plus de plaisir. C'est dans le moment de tension vers. Et je pense que nos sociétés comme ça, dans cette espèce de mythe de croissance effrénée, alors qui culmine en ce moment avec comme ça tous ces abrutis néolibéraux qui sont d'une bêtise et d'une violence crasse en plus, ça met beaucoup à mal le fonctionnement psychique de l'être humain. Et bah, là encore, ça revient peut-être, je suis pas en train de faire un discours politique, encore que. Mais je pense qu'on a beaucoup de ces déterminants qui ont une influence absolument majeure sur la santé psychique. Moi, j'en ai le moment le plus grand désespoir autour de la pandémie. Ça n'a pas été pendant la pandémie, parce que pourtant c'était un gros bordel. On a dû réorganiser je ne sais pas combien de fois l'hôpital. Enfin, c'était horriblement compliqué. Mais ça a été à la fin de la pandémie. Et dès le lendemain, on a recommencé à parler de croissance, on est reparti exactement comme avant, comme si on n'avait strictement rien appris de ça. Et ça, c'est vrai que ça m'a donné un moment, alors le profond désespoir, je dois dire, de constater qu'on n'avait rien appris de choses comme ça.
Oui, et je crois que c'est un désespoir partagé par beaucoup de monde, parce qu'effectivement, on se disait, mais ok, on recommence comme avant.
Oui, oui, oui. Alors ça, je pense que pour moi, ça, c'est la vraie folie. Mais pas la folie qu'on trouve à Malévaux. Parce qu'à Malévaux, on trouve de la souffrance. Dans un hôpital psychiatrique, on trouve pas de la folie, on trouve une profonde souffrance. Par contre, ça, c'est vraiment un délire grave. Et tout ça, ça a un impact majeur pour moi sur la santé psychique. Si on a longtemps parlé d'approche biopsychosociale, enfin, c'est une manière très sommaire, très grossière d'appréhender la complexité du monde, mais avec quand même cette idée de ne pas chercher à la réduire. Et ces déterminants sociaux sont extrêmement importants dans l'expression de la souffrance psychique.
Cette souffrance, elle a évolué au fil du temps. Quand on prend peut-être les débuts de Malévaux, où effectivement les gens restaient des semaines, des mois, voire à vie, c'était lié aussi peut-être à une souffrance qui est différente de celle qu'on peut avoir maintenant quand même.
Je suis très partagé là-dessus. Je ne sais pas si on prend certains troubles graves comme les psychoses ou des choses comme ça. Je pense que la souffrance, elle n'a pas forcément beaucoup changé. Je pense qu'il y a aussi quand même... des choses qui ont concouru à une évolution, c'est qu'on a une beaucoup plus grande attention à la question de la souffrance psychique de nos jours qu'on pouvait l'avoir au préalable. Vous vous rappeliez, avant, les gens restaient des mois, des années, voire à vie. C'était quand même dans une volonté de mettre à l'écart. On mettait à l'écart le fou, l'indigent, enfin tout ce qui dérangeait la société. Enfin, si Malévaux se situait là, c'est parce que Malévaux n'avait pas été désiré dans la capitale, la Sion, à l'époque. On avait refilé un terrain pourri au fin fond du Valais, enfin, si on parle du point de vue des Sédunois. Et puis encore, c'était pas au centre de Monthey. Maintenant, c'est quasiment à côté de la place Monthey, mais c'était à l'époque, sauf erreur, Malévaux, ça vient de mauvaises eaux. C'était le terrain pourri au bout du village où on avait mis. Donc là, on était dans cette volonté de mise à l'écart. Et je pense que c'est difficile de comparer les choses, parce que alors qu'on a de plus en plus de moyens, qu'on a pu développer des techniques thérapeutiques aussi beaucoup plus efficaces, on a pourtant l'impression que la question de la souffrance psychique, elle n'arrête pas d'augmenter. C'est d'ailleurs un des principaux poids sur les systèmes de santé au niveau mondial. De nombreuses études nous le montrent bien. Et ça, c'est difficile à comprendre pourquoi. Moi, j'ai l'impression que là, c'est quand même des difficultés aussi d'adaptation à un monde qui, par certains égards, pourrait devenir de plus en plus inhumain. Si on a des sociétés qui nous poussent à rester tout le temps jeunes, beaux, efficaces, rapides, et qu'il y a quelque chose qui n'est pas, j'allais dire, qui n'est pas propice à la santé mentale, parce qu'on est dans le plus, dans la performance, et donc, dès le moment où on n'est pas parfait, on a un sentiment d'échec.
Ce qui veut dire, en vous écoutant, qu'il faudra multiplier les hôpitaux psychiatriques à l'avenir ?
Non, je serais plus ambitieux que ça. Moi, je vais changer nos modèles de société, pas augmenter nos hôpitaux psychiatriques, parce que, voyez, moi, j'ai l'impression que c'est... Sinon, c'est comme nous demander de vider le lac avec une cuillère à café. Alors, on peut bien prendre une cuillère à soupe ou on peut bien prendre une louche, mais ça ne changera rien. Le Rhône, il va continuer à remplir le lac, et puis qu'on ait une louche ou une cuillère à café, ça ne fera pas beaucoup de différence. Donc, si on revenait à des hôpitaux de médecin, son lit, ça ne changerait pas le problème. Je ne pense pas que ça soit du tout la solution. Surtout que l'hôpital du 21e siècle, on doit aussi le transformer. Je pense que là, alors, le quartier culturel, c'est vraiment une petite œuvre d'art là au milieu pour transformer, ramener de la vie là-dedans. C'est-à-dire qu'on va à l'hôpital pas pour sortir du monde, mais on devrait y venir presque à l'image d'un temps mort sportif. Hein, on va faire une pause, on va se ressourcer, mais on reste dans la vie, on n'est pas en dehors. Le temps mort au sport, il peut être trompeur, c'est pas un temps mort, c'est un temps où on va réfléchir sur ce qui se passe pour mieux revenir dans le jeu. C'est peut-être ça que devrait être un hôpital psychiatrique. Un espace de pensée, un espace de symbolisation, un espace où on peut retrouver quelque chose pour revenir dans le monde.
Mais en vous écoutant, ça veut dire qu'on doit quand même changer un peu notre curseur au niveau société, parce que l'hôpital psychiatrique reste quand même très lourd, très pesant dans la pensée générale.
Oui, ça c'est vrai, mais ça c'est probablement parce que simplement la souffrance ou la folie, ça fait peur. Mais je pense, pavillon nomade, le quartier socio-culturel, c'est justement destiné à lutter contre ça, c'est-à-dire de faire que l'hôpital soit un lieu accueillant, soit un lieu reposant, soit un lieu d'échange, et pas un lieu médicalisé où on doit aller vite. Hein, parce que c'est aussi une des pressions qu'on a sur nos hôpitaux contemporains. On est obsédé par la vitesse. Mais par moments, on va tellement vite dans nos hôpitaux qu'on est plus pressé par l'entrée et la sortie que par le processus qui devrait se passer entre l'entrée et la sortie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui transforme la souffrance en quelque chose d'autre, en quelque chose de plus vivable. Donc dans ce sens-là, je ne pense pas qu'il faille agrandir nos hôpitaux, peut-être que d'avoir un peu plus de lits, mais ou d'être moins pressé. C'est ça qui nous serait nécessaire. Le temps du psychisme, ce n'est pas le même temps que notre temps médiatique ou le temps de nos sociétés contemporaines.
C'est quoi le temps du psychisme pour vous ?
Ben, si je regarde, puisque dans ma formation, comme tout psychiatre, on doit faire un travail personnel, moi j'avais fait une longue psychanalyse, mais si je regarde les années qu'il m'a fallu pour faire un travail intérieur, pour tenter de changer, puis je suis même pas sûr que j'ai pu changer quoi que ce soit, et puis en ayant plutôt de ce côté-là été gâté, c'est-à-dire en ayant certains moyens pour ça, on s'aperçoit que c'est sacrément compliqué de changer des choses pour soi-même. Donc comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse transformer des troubles graves comme ça, d'un claquement de doigts. Donc le temps du psychisme, il est souvent fait de répétition. On doit pouvoir, quelque part, par moment, des fois, agir ce qu'on n'arrive pas à penser, pour peu à peu pouvoir le penser, puis agir différemment. Et ça nécessite du temps. Ça ne se réduit pas. Ce n'est pas quelque chose qui va se résoudre à coup de quelques pilules bleues, rouges, vertes, ou je ne sais quoi, ou d'une technique spécifique. C'est vraiment de pouvoir créer un environnement qui permette, qui autorise ce changement.
Un modèle comme le quartier culturel à Malévaux est-il un modèle exportable ? Est-ce qu'on pourrait imaginer un quartier culturel ici à la Fondation de Nantes ?
J'aurais presque envie de vous répondre, ça devrait être une obligation. Oui, bien sûr. Alors après, comme toujours, il y a une question de moyens. Il est clair que si j'avais les moyens, demain il y aurait un quartier culturel ici. Ça, c'est une évidence pour moi. C'est vraiment ça. Je pense que c'est dans ce sens-là, ce qui a pu être créé là, j'allais dire ce repère de vie comme ça au milieu de l'hôpital, le mélange. On retombe là dans des choses historiques qu'on avait pu connaître dans l'histoire de la psychiatrie. Ça me fait penser comme ça en vous parlant à ce qu'avait fait Toscoles, qui était un des grands psychiatres psychanalytiques catalans, qui était venu en France à Saint-Alban au moment de ce qu'on a appelé le courant de psychothérapie institutionnelle, qui était l'idée d'un traitement qui devait inclure aussi la société, qui devait inclure des tas de composantes, pas uniquement une approche médicale de la folie. Et puis il avait créé, au fin fond de la Lozère, c'était dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, un repère où il y avait des résistants, il y avait des surréalistes, il y avait les patients, tout le monde était ensemble, dans un espèce de creuset de vie comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que tout était rose, c'était en pleine Deuxième Guerre mondiale, c'était des conditions qui étaient... Il est arrivé là, les gens étaient à l'abandon, il ne faut pas oublier qu'on a eu des dizaines de milliers de morts dans les hôpitaux psychiatriques durant cette période-là. Mais là, il y a eu des choses qui ont émergé. Puis le quartier culturel me fait penser à quelque chose de cet ordre-là, qui vient insuffler de la vie, un espèce d'accueil inconditionnel pour les personnes en souffrance. Pour moi, c'est quelque chose qui réhabilite une dimension asilaire, mais vraiment dans le sens de donner asile, d'être accueillant.